Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous et bien pour ceux qui nous écoutent en direct, pardon de ce petit délai voilà dans notre entrée en scène ce samedi midi, mais en tout cas nous sommes tous là. C'est moi qui suis arrivé un peu on peut plus dire un peu juste là, c'est un peu
tempête passé, printanière là. Peut-être.
Oui, c'est oui, hein, on n'est pas habitué au Québec à ça, la neige, hein, vous savez comment c'est. Bonjour Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Président du Mouvement national des Québécois. Et Guillaume Rousseau est au bout du fil ou de la fibre optique ou de je ne sais quel autre morceau de technologie. Bonjour Guillaume Rousseau.
Bonjour Nick Payne.
Merci d'être avec nous ce midi. Pardon de vous avoir fait attendre vous aussi. Alors, commençons avec vous Guillaume Rousseau, là, un instant. Vous lancez un livre cette semaine. Comme j'arrive en retard, j'ai pas le titre sous les yeux, mais vous allez nous le dire. Mais c'est La pensée des Trudeau, hein, je crois. Expliquez-nous un peu, Guillaume Rousseau, de quoi il s'agit.
Oui, donc le titre, c'est La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire. Donc, comme le titre l'indique, ça porte sur ça. C'est assez descriptif comme titre, mais plus précisément, l'idée vient d'Antoine Robitaille, du Journal de Montréal, qui avait couvert les différents scandales du gouvernement Trudeau en matière de nomination des juges il y a quelques années. Bon, il y avait des influences politiques. Et la question que m'avait posée Antoine, c'est de savoir si le fait que il semble y avoir du profilage politique, voire idéologique, lors de la nomination de certains juges là, par le gouvernement Trudeau. Ben, est-ce que ça a un effet sur les jugements rendus par ces juges? Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans le livre, défini la pensée des Trudeau. Donc, bilinguisme, multiculturalisme, État fédéral fort, droits individuels, la charte des droits et tout. Et
oui, est-ce que ça se résume, ça se résume à ça? Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une forme de ligne dure à l'endroit du Québec, par exemple, qui se traduirait dans une forme de tendance à la centralisation, peut-être?
Oui, effectivement, il y a la tendance à la centralisation, il y a l'opposition à la loi 101, il y a l'opposition à une réforme de la Constitution qui donnerait plus de pouvoir d'autonomie au Québec. Donc, autant chez le père que le fils Trudeau, là, il y a ces éléments-là qu'on retrouve. Ensuite, il y a certaines nuances entre le fils et le père, mais c'est finalement assez mineur. Et donc, on fait cette grille, on dresse cette grille d'analyse, donc qui résume en un certain nombre de critères la pensée des Trudeau. Et ensuite, on analyse les jugements des juges nommés par Justin Trudeau à la Cour d'appel, à la Cour suprême du Canada. Donc, les jugements qui sont pertinents, donc qui portent vraiment sur ces questions-là là, de charte des droits ou de loi 101 ou de partage des compétences.
Oui, c'est ça. Donc vous avez choisi des jugements qui pouvaient, des décisions qui étaient dans ces espaces-là, dans ces domaines-là. Vous n'avez pas ratissé, parce qu'évidemment, je présume qu'il y a des milliers de jugements possibles.
Potentiellement, oui. Ouais. Oui, effectivement. Donc, on établit des critères très clairs. Donc, il faut que ce soit un jugement rédigé par un juge nommé par Justin Trudeau à la Cour d'appel ou à la Cour suprême qui touche une des questions qui sont au cœur là, des rapports entre la pensée des Trudeau et le Québec, ce qui nous a permis d'identifier 29 jugements. Et à partir de là, on a regardé s'ils étaient conformes ou pas à la pensée des Trudeau. Et en gros, la conclusion, et je laisserai là, quelques détails de côté pour qu'il reste un petit peu de suspense pour que nos auditeurs aillent acheter le livre. Donc, pour l'instant, il est vendu en ligne. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux. J'ai partagé le lien là, avec la boutique Accent Bleu, mais on espère que ce sera en librairie bientôt. Et donc, en gros, la conclusion, c'est qu'effectivement, il y a une assez forte tendance des juges nommés par Justin Trudeau à rendre des jugements conformes à sa pensée, particulièrement en matière de droit individuel, de droit linguistique, mais beaucoup moins en matière de partage des compétences. Donc, en matière de partage des compétences, c'est à peu près 50-50. Donc, les juges nommés par Trudeau vont pas systématiquement faire une interprétation large des compétences fédérales et plus strictes des compétences québécoises. Donc, il y a cette nuance qui est importante, mais vraiment en matière de droit individuel, en matière de droit linguistique, et largement, quand on prend tous les jugements, il y a cette tendance-là assez forte des juges nommés par Justin Trudeau à rendre des jugements conformes à sa pensée.
Particulièrement, la question linguistique, donc, enfin, notamment et pour beaucoup. Est-ce que, qu'est-ce que ça nous dit, ça, Guillaume Rousseau? Parce que la question des penchants hein, politiques ou idéologiques des juges, ce n'est pas propre qu'au Canada, ça, d'ailleurs. Là, c'est une question qui est assez mystifiante pour les profanes comme la plupart de comme moi-même et plusieurs d'entre nous le sommes, en tout cas certainement, parce qu'on se dit, mais est-ce que des juges ne sont pas supposés avoir une éthique, une forme ou une autre de prise de recul, c'est le moins qu'on puisse dire, et agir dans des balises et selon des critères qui ne devraient pas permettre en principe qu'un penchant, voilà, un biais idéologique se manifeste? Ou alors, est-ce que je suis trop candide en disant ça et, ben, finalement, le droit étant très, très, très interprétatif, au fond, ben, ces choses-là sont possibles?
Ben, en fait, deux éléments de réponse. D'abord, on le dit bien dans le livre, là, nous, on prétend pas que lorsqu'un juge nommé par Justin Trudeau rend une décision, le bureau du premier ministre l'appelle pour lui dicter sa décision. C'est évidemment pas le seul sens du livre.
On n'est pas dans les théories du complot, là.
Ouais. Exactement. Donc, il y a des garanties d'indépendance judiciaire et tout. Donc, on pense pas du tout que les juges nommés par Justin Trudeau sont téléguidés ensuite dans la rédaction de leur décision. C'est pas le sens de notre thèse. Par contre, nous, on se base sur ce qu'on appelle la théorie réaliste de l'interprétation qui nous vient entre autres de Michel Tropper en France, bien qu'il peut avoir d'autres auteurs, évidemment. Mais en gros, les travaux de Tropper, donc un grand juriste, ont démontré que, ben, finalement, les juges ont de la marge de manœuvre. L'interprétation, donc c'est très rare qu'un juge va simplement appliquer la seule interprétation possible d'une loi, surtout quand c'est des questions de droit constitutionnel, surtout quand ça se rend en cour d'appel et en cour suprême, c'est parce qu'il y a plusieurs interprétations possible. Et à partir de là, ben évidemment, même si le juge se fie à des précédents, à des règles un peu techniques, n'empêche que ses préférences idéologiques, morales, politiques et autres peuvent jouer un rôle. Et voilà, et on l'assume comme ça.
Alors, donc, il y a bel et bien un aspect politique, là, ou en tout cas une composante politique dans ce domaine-là aussi, manifestement.
Oui, au sens large, évidemment, pas au sens partisan là, le plus...
Ou militant, oui.
Exactement, mais vraiment au sens large, on pense effectivement qu'il y a des décisions qui sont rendues, qui sont politiques et qu'il faut les analyser comme telles. C'est ce qu'on appelle du droit politique. Alors, nous, on le prend comme tel et on fait une analyse qui relève un peu de la science po, mais appliquée au droit. On pense que ça fait avancer les connaissances et la discussion. Puis ensuite, il faut faire la distinction. Moi, je dis toujours, ma méthodologie, n'importe quel chercheur l'appliquerait, qu'on arriverait au même résultat. Ensuite, on peut discuter des résultats. Donc, le processus scientifique donne des résultats qui sont ce qu'ils sont, avec les nuances dont je vous faisais part tantôt. Mais ensuite, on peut politiquement tirer la conséquence qu'on veut. Moi, je pense que ça justifie que le Québec réclame le pouvoir de nommer les juges de la Cour d'appel du Québec.
Ben, c'est ce que j'allais vous demander.
Sur la nomination des juges québécois, exact.
Oui, alors, ben c'est ça. Donc, vous, c'est ce que vous diriez. Vous diriez, il faut pallier au constat que vous faites. Il faut, d'abord, il le faut. Et puis ensuite, comment donc ce que le Québec nomme lui-même les juges. Donc, à quel niveau, dites-vous?
Ben, en fait, les juges des tribunaux québécois, évidemment, nous, on dit pas que les juges de la Cour fédérale devraient être nommés par le Québec, mais ce qui est particulier dans le système judiciaire canadien, c'est que les juges des cours des provinces, donc par exemple la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec, qui est d'administration québécoise, donc c'est le Québec qui décide c'est quoi le palais de justice, c'est sont où les bureaux, puis qui gère les greffiers et tout, mais les juges sont de nomination fédérale. Donc le pouvoir de nommer les juges est extrêmement centralisé au Canada, c'est presque un État unitaire, le Canada, de ce point de vue-là, ce qui est totalement normal. Dans toutes les fédérations du monde, si vous allez, je sais pas moi, dans l'État de New York, ben le juge devant vous va être nommé par les autorités de New York, pas par les autorités fédérales à Washington. Donc c'est très particulier au Canada, c'est très centralisé, et on pense que c'est pas l'idéal, que ça a pas lieu d'être et que ça a des effets sur le jugement, les jugements qui sont contraires aux intérêts du Québec.
Alors, la statistique que vous avez dégagée serait peut-être différente si c'était le cas d'après vous.
Ouais, et là, ça suppose de poursuivre la recherche. Donc, ce qui serait intéressant, c'est, par exemple, de regarder les jugements de la Cour du Québec, qui est une nomination québécoise. Est-ce qu'on aurait des jugements plus nuancés en matière de charte et tout?
De laïcité, par exemple.
Il faudrait poursuivre la recherche pour en être sûr, effectivement.
Oui, très intéressant. Donc, je rappelle à nos auditeurs que le livre s'appelle « La pensée des Trudeau ». Le Québec et le pouvoir judiciaire, c'est de vous, Guillaume Rousseau, et de votre collaborateur Sébastien Boutillier. Lui est chargé de cours à HEC Montréal. Vous, bien, on le répète, hein, vous êtes professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes juriste, puis voilà, c'est votre domaine. Très intéressant. On invite nos auditeurs à se procurer le livre dès que ce sera disponible. Et puis on en reparlera sans doute aussi, hein, Guillaume Rousseau, parce que ben, je vais lire ça, moi. Puis j'aurai sûrement des, rien compris, un paquet de choses, et je vous poserai des questions là-dessus.
Ben, ça va me faire plaisir.
Assurément. Et je sens que vous ouvrez un... non seulement un champ d'études, en somme, mais aussi un espace de débat, hein, peut-être ouais. davantage. On y reviendra sans doute à ces questions-là de toutes sortes de façons dans les années qui viennent. Je reste avec vous un instant, Guillaume Rousseau, parce que ce sont les... Mais d'abord, vous restez avec nous pour le restant de l'émission. Merci. Mais je reste avec vous pour l'instant sur Brian Mulroney. On ne vous avait pas entendu, vous n'étiez pas des nôtres lorsque nous avons commenté son décès il y a une semaine ou deux. Ce sont ses funérailles cette semaine. Si vous aviez quelques mots à dire sur cet homme politique marquant quand même dans l'histoire du Canada.
Oui, ben pour moi, le moment le plus marquant de sa carrière, c'est vraiment son élection comme premier ministre, donc au milieu des années 80. C'est vraiment un moment particulier parce que ça fait suite au rapatriement de la Constitution canadienne par Trudeau, les libéraux fédéraux, sans le consentement du Québec, même avec l'opposition du Québec. Puis à ce moment-là, lorsque Mulroney promet de réformer la Constitution dans l'honneur et l'enthousiasme pour que le Québec signe la Constitution et tout, à ce moment-là, il y a dans son équipe, dans les équipes de campagne, dans tous les comtés du Québec, il y a des gens du Parti québécois, parce que le Bloc n'existe pas à l'époque, il y a des gens, des libéraux québécois, qui sont évidemment pas souverainistes, mais qui souhaitent une constitution là, qui accorde plus d'autonomie au Québec. On a même des anciens de l'Union nationale, qui quelques années auparavant existaient encore. Donc, peu importe l'affiliation partisane sur la scène québécoise, tout le monde se retrouve derrière Brian Mulroney, les progressistes conservateurs, pour se venger en quelque part de Trudeau père, même si c'est plus lui le chef des libéraux, puis que c'est Turner. Et ça donne un raz-de-marée progressiste conservateur au Québec qui va nous amener à Meach et toute la suite. Donc c'est vraiment un beau moment dans l'histoire du Québec quand il y a un Québécois qui est aussi un Canadien qui souhaite donner plus d'autonomie au Québec, réformer la Constitution, même si on sait que ça va être très difficile. Et c'est vraiment, je pense, un beau moment dans l'histoire du Québec. Même si ça échoue, je pense qu'il y avait une bonne volonté au départ, il faut saluer sa mémoire.
C'est une forme de moment d'union nationale. Hein, ça,
ouais. C'est rare de dire ça, qu'il y avait vraiment là, des unionistes, des libéraux, des péquistes ensemble. C'est unique, en fait, je pense, dans notre histoire.
Frédéric Lapointe, en terminant là-dessus, il y a un sujet que nous n'avons pas abordé sur Brian Mulroney. Radio-Canada en parlait ces jours-ci. C'est intéressant, le rôle de M. Mulroney auprès de Pierre-Carl Péladeau. Hein, évidemment, le grand patron de Québécois, qui fut, il n'y a pas si longtemps, chef très indépendantiste du Parti québécois. Alors là, on voit ici, encore une fois, la capacité de Mulroney de
bâtir des ponts.
Ouais. Oui, avec des gens qui pensaient le contraire de lui sur la question nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait à cœur véritablement l'intérêt du Québec quand même. Hein? On a beau dire, c'est un grand fédéraliste hein, qui se déclarait parti à la chasse aux séparatistes. Reste qu'il travaille avec Pierre... D'abord, il y a tout ce que Guillaume Rousseau nous rappelait, évidemment. Cette union, cette espèce d'alliance de circonstances avec les souverainistes québécois. Puis voici un homme qui travaille avec... Pierre-Carl Péladeau, avant et après son passage en politique, et qui fait beaucoup pour lui, hein, qui est une sorte de mentor, qui lui donne des conseils, lui a donné des conseils aussi lors de son passage en politique. Il aurait pu dire, bon, ben là, franchement, débrouille-toi tout seul, je vais te laisser, je suis pas d'accord avec toi, donc qu'est-ce que ça vous dit?
Oui, Brian Mulroney fait attention de garder tous les canaux ouverts. Hein, c'est un travail de diplomate qui peut payer à court terme, qui peut payer à long terme. Donc, il y a une logique dans toute sa carrière de garder le contact, d'appeler, d'offrir son aide et d'éviter aussi à l'occasion, hein, même s'il était proche de Jean Charest dans la dernière course à la chefferie du Parti conservateur, il a bien fait attention de ne pas s'afficher trop ouvertement pour ne pas, encore une fois, nuire à sa capacité de communiquer ou de concilier, de jouer un rôle utile. Dans le cas de Vidéotron, il faut se souvenir qu'à l'époque, je dis Vidéotron québécois, faut se souvenir qu'à l'époque, Pierre-Carl Péladeau n'était pas très bien vu hein, au Canada anglais.
Il n'est toujours pas aujourd'hui.
Il n'est toujours pas aujourd'hui.
Mais ni M. Mulroney, d'ailleurs, sur Bay Street, là, c'est pas...
Ah oui, ça peut varier. Là. C'est sûr que lorsqu'il est parti, sa popularité était en chute, mais vous voyez... Il a pris la défense de Pierre-Carl Péladeau lorsque celui-ci, d'abord, a acheté Vidéotron pour empêcher Rogers de le faire. Ensuite, Québécois s'est lancé dans l'achat de médias, hein, dans le reste du Canada, à Winnipeg, à Toronto. Et ça n'a pas été très bien vu, ça n'a pas été bienvenu. Pierre-Carl Péladeau le dit lui-même qu'il ne s'est pas senti accepté dans le club des milliardaires du Canada. Et Brian Mulroney, à l'occasion même, a pris le téléphone ou a pris la plume pour s'adresser soit à des médias, soit à d'autres individus pour prendre la défense de Pierre-Carl Péladeau. Donc, je ne veux pas parler pour Brian Mulroney, il n'est pas là pour clarifier, mais disons que...
Il fallait avoir une vision pour ça. Il fallait que ce soit parce qu'il voulait vraiment que le Québec et ses gens d'affaires prennent pleinement leur place à l'intérieur du Canada, si je comprends bien. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça?
Oui. Je pense que de vouloir... Pas nécessairement dans ce cas-là rechercher l'honneur et l'enthousiasme, mais une forme d'harmonie, une forme de normalisation. Il était très bien placé pour savoir que le maintien d'une attitude hostile envers tout ce qui vient du Québec n'allait pas porter fruit, n'allait pas entraîner le Canada là, vers des jours meilleurs. Alors, à chaque occasion qu'il pouvait avoir de faire le pont entre des opposés. Hein,
Parce qu'on en connaît d'autres là, qui ne se seraient pas enfargés dans ce genre de détails, qui n'auraient pas osé aider un homme d'affaires comme Pierre-Carl Péladeau.
Donc, des politiciens de la trempe de Pierre-Éliott Trudeau, par exemple, ne se seraient pas embarrassés de la chose. Oui. Là, oui. on peut faire le contraste. Oui. Bon, maintenant, sans faire de l'analyse psycho-historique trop élaborée, parfois, les personnages se développent ou développent leur style par opposition aux défauts qu'ils observe. Et dans le cas de Brian Mulroney, ben, son style politique s'est développé alors que Pierre-Éliott Trudeau était la personnification de l'agressivité abusive envers le Québec, alors qu'il a été un contraste et probablement assez naturel.
Guillaume Rousseau, reste que tout ça s'inscrit dans une trame, hein, cette volonté manifeste de M. Mulroney de donner toute sa place ou de laisser le Québec ou son identité prendre toutes leurs mesures à l'intérieur du Canada. Ça a fait de M. Mulroney un personnage relativement suspect aux yeux des Canadiens, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas la même émotion là-bas qu'au Québec aujourd'hui, là.
Non, ben, je parlais tantôt de la prise du pouvoir par M. Mulroney au milieu des années 80. On pourrait aussi parler de sa défaite, du moment où il est éjecté. Et ça a été autant le triomphe du milieu des années 80 a été incroyable, autant sa chute a été de dimension à peu près jamais vue. Il restait deux députés. Là. C'est sûr que c'est Kim Campbell là, qui était la chef à ce moment-là, mais il reste que c'est l'héritage de
la sanction
qui a été sanctionné. Et c'est le schisme avec le Reform Party, avec le Bloc, donc double schiste sur ses deux ailes, son aile nationaliste québécoise qu'il quitte, son aile autonomiste de l'Ouest, donc vraiment une incroyable défaite, une incroyable dégelée, un déclin, une chute vraiment très très forte avec des trahisons et tout, un truc vraiment shakespearien, donc voilà, c'est ce qui explique au Canada anglais tout le mouvement de réformistes qui aujourd'hui a finalement pris le contrôle du Parti conservateur. Le Parti conservateur, bon, les gens ont été évidemment très corrects, monsieur Poilievre aussi, là, cette semaine, là, évidemment, veulent en quelque part ne pas salir de la mémoire de l'homme qui vient de quitter, mais il reste que c'est effectivement, il y a beaucoup de gens, lui, en veulent parce que il a pris le pouvoir, puis ensuite, il a peut-être pas mené les politiques qu'il avait promis au niveau de l'Ouest canadien, il n'est peut-être pas allé aussi loin, il n'a peut-être pas été aussi à droite que certains auraient souhaité, donc pour toutes sortes de raisons, il a déçu quand même des électeurs de l'Ouest canadien, ce qui a amené Stephen Harper, qui était un jeune employé politique, puis qui finalement a quitté bon, pour le Reform, pour ensuite faire le Parti conservateur du Canada, en faisant sauter le mot progressiste, donc toute cette histoire-là ne peut pas disparaître simplement parce qu'il est décédé, mais quand même, je pense qu'il y a une certaine admiration pour lui dans le reste du Canada, même si c'est peut-être moins fort qu'au Québec.
En effet. Frédéric Lapointe, le mot progressiste est parti. On pourrait dire le mot, cette velléité d'ouverture à l'endroit du Québec aussi, dans une certaine mesure. On continue de se montrer moins centralisateur, mais il est clair que l'intention, la volonté de donner au Québec la chance de signer la Constitution canadienne assez selon des termes qui lui conviennent, n'est plus à l'ordre du jour chez les conservateurs canadiens. Est-ce que je me trompe?
On ne se trompe pas. Si les conservateurs respectent davantage les juridictions des provinces, le Parti conservateur ne le fait pas en ayant le Québec ou le statut particulier du Québec à l'esprit. Hein. C'est davantage leur inclinaison, leur orientation historique.
C'est mur à mur, il n'y a pas un poil qui...
Oui, et leur enracinement dans l'Ouest, parce que l'Ouest, les provinces de l'Ouest également, on pourrait appeler ça peut-être pas de l'agitation sécessionniste, là, mais une certaine agitation décentralisatrice. Ces gens sont proches, sont bien davantage proches du Parti conservateur du Canada que peuvent l'être les souverainistes du Québec. C'est la grosse nuance entre le mouvement qui a porté Brian Mulroney au pouvoir, qui incluait massivement les nationalistes québécois, et le parti politique de Pierre Poilievre qui n'a pas cherché à faire ce pont-là, mais la présence du Bloc québécois l'empêche bien évidemment, mais certainement ça n'a pas eu lieu. Et donc, il n'y a pas cette transaction, hein, ce beau risque qui a été qualifié de beau risque par René Lévesque, qui avait lieu dans les années 80. Ce qui ne veut pas dire que pour autant l'avenir est bouché. On ne sait pas, hein, du côté du gouvernement fédéral ou d'un parti conservateur, peut-être en raison d'ouverture d'autres provinces, on ne sait pas si ce chapitre, un chapitre potentiel de modification de la Constitution, ne pourrait pas s'ouvrir. Mais s'il s'ouvre, ce ne sera pas en réponse ouverte aux demandes politiques du Québec.
Il ne faudrait pas que ce soit formellement ça la raison.
Il faudrait presque que ce soit par accident, mais ce n'est pas impossible.
Restons tristement là, dans le domaine des grands disparus. Guillaume Rousseau, il faut parler d'Yves Michaud. Parler d'Yves Michaud, c'est comme si on parlait du Québec des 40, 50, 60 dernières années, pratiquement. Né en février 1930, décédé le 19 mars là, cette semaine à Montréal. Il fut un homme politique, un journaliste aussi. Hein? Il était, à un certain moment, député du Parti libéral. Il chemine vers l'indépendance du Québec dans les suites là, de la crise linguistique à Saint-Léonard, je crois, là, où les lois... Vous nous expliquerez mieux que je ne peux le faire. Oui, c'est ça, le Bill 63. Que Yves Michaud, c'est beaucoup plus que ça. C'est cet amoureux de la langue, hein, qui était toujours qui était toujours prêt pour vous faire des formules vraiment hallucinantes avec des mots pointus et très, très imagés. Un homme coloré, un homme qui ne détestait pas la controverse, assurément, non plus. Il fut, après sa carrière politique, le Robin des banques, hein, donc le patron du MÉDAC, le mouvement d'éducation des actionnaires, qui visait à montrer à tous, hein, les petites combines des patrons d'entreprise. Bon, bref, il a eu à travers ça une lutte avec les Desmarais, notamment, hein, assez épique. Et puis aussi, surtout, pas surtout malheureusement, mais aussi, en tout cas, malheureusement, donc, cette motion de l'Assemblée nationale à laquelle on va venir dans un instant, qui le blâmait. Mais commençons par sa carrière, sa vie, son œuvre, Guillaume Rousseau, là-dessus.
Ben c'est vraiment, je pense, c'est l'homme de principe. C'est vraiment, je pense, l'expression était sortie sous la plume de José Legault plus tôt cette semaine, et je trouve qu'elle met le doigt sur l'essentiel. Donc un homme qui avait ses convictions et qui se battait pas, qui pliait pas, qui fonçait, même quand c'était difficile. À peu près tous ses combats étaient difficiles, et pourtant il les menait. Donc je pense que c'est un grand homme qui nous quitte. Et moi, ce que je retiens, c'est à quel point il y a eu des moments difficiles, évidemment, autour de la motion dont on parlera dans quelques instants, mais même le journal, l'épisode du journal Le Jour, tu sais, c'est donc un journal proche du Parti québécois au milieu des années 70, mais rapidement, la bisbille prend et tout, et lui, il est au cœur de ça. Donc, vraiment, à chaque moment de sa vie, il est député, mais là, rapidement, le Parti libéral n'est plus à la hauteur, donc il doit quitter. Donc, vraiment, quelqu'un qui combat pour le Québec, mais c'est toujours dur, donc il n'y en a pas de facile. C'est pas on prend le pouvoir, on fait des belles réformes, tout le monde nous aime, là on est complètement aux antipodes de ça, et pourtant il y en a gagné des batailles, et pourtant il a fait avancer les intérêts du Québec, mais vraiment toujours dans la difficulté. Donc il incarne en quelque part ce Québec-là qui se bat, qui gagne, qui l'a jamais facile, qui en perd peut-être plus qu'il en gagne, mais qu'il en gagne quand même. Et je pense que pour tout ça, là, on lève notre chapeau aujourd'hui.
Ben oui, Frédéric Lapointe, Guillaume Rousseau parle d'un certain Québec. Alors, Yves Michaud était, c'est vrai, toujours à... est-ce que c'est à dessein? On ne le saura jamais, mais à contre-courant, dans la marge, vent de face, de toutes sortes de façons, enfin, très souvent. Là où il était moins typique d'un certain Québec, je dirais, c'est que c'est un homme qui ne craignait pas de manquer d'humilité, hein, disons ça comme ça. Il parlait très pointu, il parlait d'autorité, et puis il ne reculait pas devant une possibilité de regarder un journaliste un peu de haut si la question ne faisait pas son affaire. Compagnon de route de René Lévesque aussi, mais on y reviendra. Il était rédacteur en chef du journal La Patrie, hein, de 62 mm-hmm. à 66. C'est là mm-hmm. qu'il fut vraiment journaliste. Là où il était, c'est un peu le sommet de sa carrière de journaliste, à part le journal Le Jour, donc, qui dure 2 ans, là, juste avant la prise du pouvoir par les péquistes.
Et le Mascoutin dans les années 50.
Oui, alors, il vient de commence ses... là, voilà, exactement. Voilà. Mais donc, oui, l'homme qui vise haut en même temps, Frédéric Lapointe, c'est un peu moins québécois, ça, à l'époque, en tout cas.
Oui, puis, ben, écoutez, on a quoi comme l'équivalent comme personnage, hein, dans le style, hein?
En ce moment?
Pas en ce moment, mais je veux dire dans les dernières décennies.
À travers toutes les époques, difficile de trouver ça. Peut-être un...
C'est du Jean Drapeau dans le style, au fond. Hein? C'est le style des années 30, 40, 50. C'est le vieux
mélange
Canada
de
Drapeau français.
Et de Parizeau, peut-être?
Oui, c'est le vieux Canada français qui cherche à parfaire la forme, la forme discursive, l'usage de la langue, la présentation personnelle. Hein, très formel, et c'est des choses qui vont éclater avec la Révolution tranquille.
Mais lui ne rejetait pas la part nationaliste pré-Révolution tranquille, au fond. Hein. C'est
exact.
Ce qui marque Michaud. Il reste attaché au combat pour l'identité, la langue. Il réfère à Lionel Groulx parfois. Mais pourtant, c'est un progressiste en même temps.
Oui, mais avec un esprit de sacrifice, hein, puis un désir de droiture qui est davantage typique. Je dirais des gens bien pensants, mais à l'ancienne, hein, dans le sérail de l'Église, de la doctrine sociale, de toutes ces appels à la moralité qu'on vivait à l'époque, hein, la Ligue de tempérance, la Ligue d'action civique, tout ça. Donc, c'est un représentant de ce vieux Canada français qui savait bien faire les choses, les faire honnêtement, les faire adroitement. Je ne sais pas s'il est le dernier représentant, hein, le dernier des dinosaures, mais c'est très certainement un modèle. Et je pense que quand on regarde le parcours d'Yves Michaud, ça nous rappelle qu'il ne faut pas diaboliser le passé. Le passé a produit de grands hommes, a produit de grandes causes, et je pense que la carrière d'Yves Michaud sont à la fois sur le fond et sur la forme. C'est un modèle dont on doit s'inspirer. On le considère suffisamment inspirant, en tout cas du côté de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, pour lui avoir remis, là, il y a quelques temps, la distinction la plus importante que nous remettons, là, la médaille du patriote, du grand patriote. Là, ben, il y a une expression latine pour ça là, qui m'échappe. Mais oui, donc nous avons reconnu son œuvre. Et je pense que maintenant qu'il nous quitte, il faut porter, je le répète, un regard plus généreux sur cette époque.
Il a été diplomate aussi, mais enfin, représentant du Québec à Paris. On lui doit une place du Québec là-bas, hein, aussi. Guillaume Rousseau, alors, cette fameuse motion. En 2000, les péquistes sont au pouvoir. Lucien Bouchard est le patron. Est-ce que c'est en 2000? Oui, en tout cas, Lucien Bouchard est toujours là.
Et, ouais, 2000.
Oui, c'est 2000. Ça. Et alors, pourquoi? Parce que Yves Michaud aurait tenu la veille aux États généraux sur la langue, je crois, des propos antisémites. Et là, l'histoire se brouille. En fait, lorsqu'on lit les propos qu'on attribue à Yves Michaud, il n'y a absolument rien d'antisémite là-dedans. Là. C'est même un hommage aux Juifs, donc on ne comprend pas trop où on veut en venir. Mais en fait, dans les jours précédents, dans une émission de radio, dans une entrevue du moins, là, Yves Michaud avait dit quelque chose comme « Les Juifs n'ont pas le monopole de la souffrance ». Mais c'était une phrase qu'il avait laissée tomber au milieu d'un long... une longue envolée, là, si vous voulez. Enfin, c'était une longue entrevue. Il y avait beaucoup de substance là-dedans. Mais toujours est-il que l'Assemblée nationale, elle ne se prononce pas là-dessus. Elle se prononce sur les propos de la veille tenus aux États généraux, qui ne sont pas des propos antisémites. Et tout le monde décide ainsi de condamner Yves Michaud pour propos antisémites. Tout est bizarre là-dedans. Voici l'Assemblée nationale qui condamne un citoyen, c'est la métaphore de la mouche et du canon, là, vraiment, ici, qui s'applique, peut-être. Et puis, en plus, on se trompe grossièrement sur les propos qu'on prête à Michaud. Monsieur Michaud va beaucoup souffrir de ça. Hein? Il va passer des années de sa vie à dénoncer cette motion, à réclamer des excuses. L'Assemblée nationale ne s'y est jamais rendue, n'y est jamais parvenue. Il y a eu une tentative là, vers 2020. Les caquistes l'ont bloqué pour diverses raisons. Il y a plusieurs députés péquistes de l'époque qui ont fini par s'excuser individuellement, chacun, à Yves Michaud, en disant « Écoutez, on s'est trompé. » Et là, hier, François Legault s'exprime là-dessus. Et lui, il dit, moi, parce que c'est le dernier hein, qui était là à l'époque, François Legault. Et puis lui, il dit, ah, moi, vous savez, je ne regrette pas mon vote. Les propos d'Yves Michaud étaient antisémites. Mais par ailleurs, M. Michaud est un grand homme, ainsi de suite. Puis Legault réfère aux propos dans l'émission de radio. Alors, est-ce que ça vous étonne que le premier ministre du Québec soit aussi brouillon sur une question comme celle-là? Surtout au moment où il faudrait peut-être, s'il y a un moment où on pourrait accorder, lâcher un peu de lest et être un peu plus magnanime envers M. Michaud, c'est bien au moment de son décès. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Sur l'affaire comme telle, vous avez très, très bien résumé les faits. J'en ajouterais deux. Un problème, c'est qu'il n'a pas été entendu par l'Assemblée nationale. Donc, c'est une chose de reprocher à quelqu'un, mais de lui reprocher quelque chose sans avoir entendu sa version.
Sans audience, ouais.
C'est ça. Et M. Michaud aurait probablement dit que c'était une violation de la règle audi alteram partam, donc le droit d'être entendu, parce qu'évidemment, M. Michaud aimait bien les formules et les maximes latines.
Mais bon, il parlait de la motion scélérate. Hein,
oui, aussi, quand il y avait un adversaire politique, il pouvait le qualifier d'olibrius. Donc voilà, ouais. Il y avait tout un vocabulaire comme ça, très, très riche.
Il disait qu'il faisait froid à Pierre Fendre.
Ah, oui. Ça, je la connaissais
On
pas,
avait
celle-là.
Cité ça, tout le monde en parle il y a plusieurs années. Oui, voilà. Je vous laisse aller.
Par contre, c'est ça s'est rendu en cours, je pense que jusqu'en cours d'appel, cette affaire-là, et la Cour a confirmé le privilège parlementaire de l'Assemblée nationale qui pouvait faire ça. Donc, évidemment, on peut dire que moralement, c'était condamnable, mais légalement, ça
rien
ça,
qui empêche.
Considéré. Ouais. Effectivement, donc les tribunaux peuvent pas se mêler de ça, c'est le privilège de l'Assemblée nationale. Donc, à quelque part, ça a fait avancer le droit là, sur cette question-là, paradoxalement. Mais un aspect qu'on oublie peut-être et qui m'apparaît extrêmement important, c'est qu'au cœur de l'affaire Michaud, donc fin 2000,
là, vous allez sur la politique. Oui, oui.
Ouais,
sur ce qui
2001,
se passe en coulisses.
Ouais. En fait, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le regroupement qui s'est créé à ce moment-là, Solidarité Yves Michaud. Donc, alors que Yves Michaud est traité d'antisémite, traîné dans la boue, motion de l'Assemblée nationale, ben, y a des gens qui se lèvent et qui le défendent. Et c'était assez inattendu. Moi, je me souviens, je suis assez vieux pour avoir connu cet épisode. Et à l'époque, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, le type est mort, donc politiquement, socialement, et on n'en entendra plus parler.
C'est trop radioactif. Bon, il y a
exactement. Puis l'antisémitisme. Puis le Bouchard.
Un personnage.
En plus, Bouchard a démissionné là-dessus aussi. On oublie ce détail.
Non, mais c'est un événement qui marque l'histoire.
Ouais. C'est un tournant. Donc, Michaud voulait se présenter dans Mercier, donc un comté qui était à peu près sûr pour le PQ, même si, bon, finalement, à un moment donné, ça va être libéral, mais bref, et que ça va devenir plus tard QS, mais à ce moment-là, on pense que c'est un comté sûr pour le PQ, Michaud veut y aller, et Bouchard instrumentalise l'Assemblée nationale et cette motion pour bloquer la candidature de Yves Michaud dans Mercier, du moins, c'est interprété comme ça par certaines personnes. Mais ce qui est encore plus important, c'est vraiment Solidarité Yves Michaud. Donc, des gens qui décident de le défendre. Et je trouve ça très important parce que entre 1995 et 2001, il y a tout un moment où les nationalistes sont très penauds, très après les déclarations de Parizeau sur le vote ethnique et tout. Là, il y a toute une rhétorique sur le nationalisme civique. Puis là, il ne faut vraiment pas être nationaliste parce que sinon, on est méchant, on est xénophobe. Et pendant 6 ans, au moins, les nationalistes font le dos rond. On s'excuse d'exister. Puis la nationalité québécoise, c'est la charte des droits. C'est surtout pas la culture, la langue et l'histoire. Et là, c'est assez. Et on se fait traiter de tous les noms. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui se lèvent et qui disent « Non, là, c'est assez. On va arrêter de se faire traiter de raciste, de xénophobe, d'antisémite. » Et là, se crée ce mouvement Solidarité Yves Michaud. Et pour moi, c'est le réveil du nationalisme québécois. Et ça préfigure de la crise des accommodements raisonnables, de la charte des valeurs et ultimement de la loi 21. Donc, François Legault est en quelque part l'héritier de des gens qui se sont mobilisés pour Yves Michaud. Donc, c'est un peu paradoxal.
Il est peut-être pas au courant.
Non, c'est ça. Je vous dirais que je suis peut-être un des seuls qui pousse l'interprétation jusque-là, mais je pense qu'elle est raisonnable et j'y crois profondément. profondément, pour moi, j'ai ce souvenir-là que c'est le moment où des gens disent « c'est assez, on est tanné de se faire traiter de raciste, de xénophobe, de tout ça, on se tient debout, on s'assume et ça préfigure donc tout ce que Francine Pelletier et d'autres là, appellent le virage identitaire du nationalisme, tout ce méchant, le virage, le méchant du nationalisme, là, il commence là. Alors c'est quand même pas un détail dans notre histoire quand on sait que ça nous a mené à ultimement à la CAQ, à la Charte des valeurs, à tout ça, à la loi sur la laïcité, à peu près tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de nationalisme québécois, ça a commencé là, à mon sens. Donc, c'est ma façon peut-être de lui rendre hommage aussi ce midi.
C'est fascinant, Frédéric Lapointe, la trame que déroule sous nos yeux Guillaume Rousseau, faire le lien, se rendre comme ça jusqu'aux accommodements raisonnables et puis la Charte des valeurs et la loi 21 ensuite, puis le retour d'un certain nationalisme. Diriez-vous qu'on peut élargir encore, regarder encore un peu plus loin ce débat chez les souverainistes entre... et là, on parle toujours de Michaud, hein, mais on élargit sur l'histoire. C'est là qu'on se rend compte à quel point il joue un rôle dans l'histoire récente du Québec par sa seule existence, Yves Michaud, à certains égards. Donc, diriez-vous que c'est pas seulement au lendemain de la déclaration de Parizeau que ce débat s'exacerbe. Peut-être qu'il s'exacerbe, mais il existe avant.
Oui.
Le référendum de 95 se déroule avec une campagne, avec des affiches très peace and love, hein, et oui, très mondialiste, j'ai envie de dire, très peu identitaire au fond. Et, bon, et puis, il y avait déjà dans le mouvement à ce moment-là ce débat autour de la pertinence de se montrer plus ou moins nationaliste parce que ça fait méchant, puis ça fait repli sur soi, puis le nationalisme ethnique et ainsi de suite. On débattait déjà de ça avant. Et là, Parizeau arrive et vraiment met le feu. Et puis ensuite, et c'est là que Michaud intervient. Michaud, lui, ne change pas de position à travers tout ça. Il continue d'être l'homme de la défense de la langue française, de l'identité québécoise, de la continuité historique, si vous voulez. Mmh. Et là, il dérange Lucien Bouchard parce que c'est ce qui... ainsi qu'il se définit, Michaud, alors que Bouchard, lui, vient de faire le discours, le fameux discours du centaure, hein, écrit par Jean-François Lisée, dans lequel il dit « Je ne pourrais pas rouvrir le dossier de la langue et de la loi 101 et continuer de me regarder dans le miroir. Hein, » c'est dire à quel point M. Bouchard ne voulait pas revenir aux questions linguistiques et identitaires, en tout cas linguistiques à tout le moins. Donc, on comprend que la candidature de Michaud le dérangeait politiquement, mais elle le dérangeait probablement aussi parce que Michaud est tout un personnage, là. On ne voulait pas l'avoir dans les pattes, en somme. Donc, êtes-vous d'accord, vous, avec ça, avec le fait que Bouchard a peut-être instrumentalisé, c'est peut-être servi de la motion pour se débarrasser de Michaud,
oui,
et ça a marché pas juste à peu près. C'est la fin de la carrière politique d'Yves Michaud.
C'est un assassinat politique. Non, c'est clair.
Symbolique, oui.
Oui, mais à toutes fins utiles, c'est un assassinat politique. Et il y en a d'autres. Et il y en aura d'autres. Hein. De nos jours, les assassinats politiques prennent quel chemin? Bien, ils prennent le chemin de maladresse langagière, ils prennent le chemin d'accusations de harcèlement psychologique, parfois folichonne.
On règle votre cas, comme ça, on vous assassine symboliquement, on vous sort du jeu.
Exact. Exact. Ouais. Et on s'embarrasse pas de la vérité.
Mais Michaud, c'est parce que là, la politique et l'idéologie interviennent aussi. C'est pas seulement l'homme dont on se débarrasse, c'est ce qu'il incarne.
C'est de ce qu'il représente. Et enfin, l'assassinat, dans une certaine mesure, a été un échec. C'est pas pour rien que Lucien Bouchard est parti. Et c'est pas pour rien non plus les gens se sont refusés admettre leur tort. Et les assassinats ont ceci de particulier que lorsqu'ils sont réussis, ça ne coûte plus rien que d'admettre ses torts. Mais lorsqu'ils sont échoués, on maintient ses positions parce qu'autrement, il y aurait un prix à payer. Alors tout ça est très regrettable. On l'a vu, là, l'Assemblée nationale a encore ce défaut que de réagir, d'être un théâtre politique qui réagit un peu trop rapidement
et
qui déshonore, pas forcément toujours sur des affaires Michaud, mais sur d'autres questions.
Ouais, justement. Mais d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez de François Legault qui se trompe grossièrement 20 ans plus tard, alors que nous en parlons depuis plusieurs jours, sur les propos de Michaud? Il pense, M. Legault, qu'il a voté sur les propos de la semaine précédente à la radio. C'est fou quand même, non? C'est de la mauvaise foi ou c'est... notre premier ministre n'a pas le temps de s'informer peut-être sur des détails comme ceux-là?
Moi, je pense franchement qu'il aurait été dans l'intérêt de la CAQ de prendre de la hauteur sur cette question-là. François Legault...
Est-ce que c'est l'amitié Legault-Bouchard qui intervient ici?
Peut-être. Non, bon point. Je l'avais pas vu, mais bon point. Parce que François Legault n'est plus un ministre péquiste. Il est le premier ministre caquiste de la province de Québec. Et à cet égard...
Héritière d'Yves Michaud dans une bonne mesure.
Dans une bonne mesure. Hein? Ouais. La CAQ, elle aime bien s'enraciner dans l'histoire, hein? Faire le lien avec l'Union nationale, avec Honoré Mercier avant. Donc, ils sont dans cette célébration du temps politique long du Canada français. Alors, il me semble que s'il avait été inspiré par ceci, hein, qui est censé inspirer la CAQ, mais François Legault aurait mieux fait de ne pas répondre en ministre péquiste.
Bon, Guillaume Rousseau, parlant de motion d'Assemblée nationale, nous avons terminé, nous avons fait le tour sur Yves Michaud, mais enfin, bref, nos sympathies, bien sûr, à ses proches. Puis on salue encore une fois cet homme unique en son genre et puis un acteur politique très important du Québec récent, là, au minimum, enfin des dernières décennies. Alors poursuivons, chers auditeurs. Guillaume Rousseau n'est pas avec nous pour les prochains instants, mais il sera de retour. Frédéric Lapointe, il faut qu'on parle de cette réforme proposée de la loi électorale à Ottawa, qui, parce que, dit-on, certaines fêtes religieuses, les élections pourraient tomber pendant une fête religieuse. Là. Il faudrait donc la reporter de quelques jours. Et comme par hasard, ce report permettrait à plusieurs députés qui sont à une journée et quelques heures d'avoir leur pension, de l'obtenir. Trouvez pas ça un peu étonnant et est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'on n'a pas osé dire aux électeurs « Bon, écoutez, là, on va faire une petite modification temporaire pour permettre à ces pauvres élus d'avoir leur pension » parce qu'on sait bien, évidemment, tout le potentiel corrosif, électoralement parlant, de prendre une telle décision. On a vu ce qui est arrivé à Québec lorsque les députés se sont votés une augmentation
effectivement.
Plusieurs, par ailleurs, jugeaient...
Bien justifié. Ouais. J'en étais.
Alors donc, à Ottawa, vous voyez, bon, alors là, on prend prétexte des fêtes religieuses et hop, on découvre que, en fait, plusieurs députés obtiendront de ce fait leur pension. C'est étonnant, non?
Écoutez, il y a un certain nombre de religions bien représentées au Canada. Hein? Nous sommes un pays d'immigration. Alors, j'imagine que le calendrier
mais justement,
de
si
365
on commence,
jours
on finira jamais.
Complet
mais oui.
doit pouvoir être invoqué. Écoutez, oui, c'est possible, c'est possible. Sur le fond de l'affaire, en supposant que de faire le pont, pour quelques jours ait été la motivation. Écoutez, je vais être content pour les députés concernés.
Semble-t-il qu'il y a des libéraux, il y a quelques bloquistes.
Voilà.
Les libéraux, on peut s'imaginer qu'ils commencent à sentir la soupe chaude et ont comme l'impression qu'ils pourraient être battus aux prochaines élections. Et donc, ils seraient à court d'une journée et quelques heures pour avoir leur pension. C'est vrai que c'est plate pour eux, mais en même temps, ça parle beaucoup, ça.
Oui, hein? exact. Je crois que quelqu'un peut mériter, je ne sais pas si la règle, c'est 8 ans, 10 ans, 12 ans, mais certainement, il la mérite. Hein, à une journée près, là, on ne veut pas enlever de mérite à qui que ce soit après tant d'années de service public. Mais oui, effectivement, si les gens pensent à de telles mesures, c'est que la probabilité d'une fin de régime est grande. Lorsqu'on regarde les projections de sièges avec les sondages actuels, on parle de plus de 200 sièges pour le Parti conservateur, une quarantaine ou une cinquantaine pour les libéraux. Là, c'est les deux tiers des libéraux là, qui disparaissent de la carte électorale. Donc oui, ça fait beaucoup de gens qui sont susceptibles de prendre une pension dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Est-ce qu'on n'a pas ajouté l'insulte à l'injure? C'est-à-dire que on comprend bien que ça aurait été difficile de dire « nous allons modifier la loi électorale pour pouvoir avoir nos pensions », mais là, on dit « nous allons modifier la loi électorale pour avoir nos pensions en cachette de façon détournée ». Est-ce que c'est pas deux fois faire fâcher l'observateur, ça? Il pourrait y avoir un prix à ça?
Ouais, mais je pense qu'ils vont évoquer les congés religieux jusqu'au bout. Hein. Ils vont nier jusqu'au bout de l'avoir fait pour cette raison. Et là, ben ça c'est un dilemme qu'on observe souvent en politique là, lorsqu'on est à l'intérieur là, derrière les rideaux. C'est que du côté des politiciens en privé, je vous dis pas ils diront pas ça en public, là, mais en privé ils vont invoquer justement la difficulté qu'a la population d'accepter le prix à payer pour avoir des candidats, des gens intéressants qui s'engagent en politique et donc ils vont justifier leur manque de transparence par le manque de maturité ou le manque d'acceptabilité là, de ces mesures qu'ils jugent par ailleurs nécessaires. Évidemment, ça paraît toujours... Quand c'est au nom de l'intérêt supérieur de l'État qu'on masque des choses ou qu'on ment, ça passe mieux. Quand c'est pour servir son propre intérêt financier, ça passe moins bien. Là, on s'entend.
Bon, on verra bien ce qui arrivera dans ce dossier. Une autre question qu'on va traiter très rapidement. Frédéric Lapointe est arrivé à l'artiste, au comédien Guillaume Le Métivierge, une affaire tout à fait stupéfiante ces derniers jours. Il se balade dans un boisé. Il décide de faire une courte vidéo dans laquelle il fait un jeu de mots avec les gens qui travaillent dur, le boulot. J'ai du gros boulot et il enlace un boulot. Et juste sous sa main se trouve gravé un mot, le fameux mot en N que même moi je n'ose plus prononcer parce que bon...
Écoute, travailler comme un, oui.
Oui, ouais, mais ça, c'est pas ce qu'il dit. Il dit « j'ai du gros boulot ». Il met sa main là et là, il y a le mot dans sa forme...
On prend l'allusion.
Dans sa forme américaine, N-I-G-G-A. Hein? Donc, c'est l'espèce de slang américain qui a été récupéré d'ailleurs par les personnes noires elles-mêmes pour se faire une sorte d'objet de fierté. C'est un mot, par ailleurs, qu'on voit partout. Hein? Dans l'autobus, sur les poteaux de téléphone, dans les salles d'essayage, dans les toilettes, dans les cinémas,
Un tag fréquent à Montréal. C'est un graffiti fréquent. Un marqueur de territoire, peut-être. Enfin, il y a des anthropologues qui pourraient se pencher là-dessus.
Alors, bref, tout le monde s'est doctement prononcé en disant Guillaume Le Métivierge, il a fait exprès. Il a voulu faire une blague en référant à ce mot. Ça vous paraît pas un peu fort de café? Est-ce que le hasard, est-ce qu'on peut encore... Là, il y a eu un lynchage public. Hein, c'est terminé pour M. Le Métivierge. Et là, je dis tout de suite, là, moi, je comprends la sensibilité des gens qui ont été heurtés par cette vidéo. C'est pas là où je veux en venir, mais quand même, est-ce qu'on n'est pas dans le meilleur ici du lynchage public? Il a perdu un contrat, il en perdra d'autres... Il nous reste 20 secondes.
Oui, c'est difficile de le dire parce que le faisceau de circonstances peut laisser entendre qu'il souhaitait passer un message crypté, hein, sans le passer ouvertement.
Mais pourquoi? On ne connaît pas cet homme de velléité raciste.
Non. Est-ce que c'est pour faire parler de lui? Est-ce que c'est une manière de s'auto-saboter?
Il s'est dit, tiens, je vais mettre un terme à ma carrière, à ma réputation.
Il y a un politicien qui a volé un manteau.
Vous aurez fait un Claude Charron?
Un Claude Charron, voilà. Ouais. c'est pas impossible. Maintenant, qu'il y ait discussion, qu'il y ait sanction, qu'il y ait cadrage, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a de meilleures façons de discuter des expressions québécoises qui ne sont pas particulièrement irrespectueuses, qui gagneraient à être bien comprises par nos concitoyens, plutôt qu'on importe les réflexes qui nous viennent d'un autre continent ou du sud de la frontière.
Vous. Intéressant. La semaine dernière, le National Post attirait notre attention sur un jugement de la Cour suprême, une décision de la Cour suprême dans laquelle, à un certain moment, la juge Sheila Martin, qui écrit pour tout le monde, pour tous là, dans ce cas-là, parle des personnes ayant un vagin. Il faudrait revenir là sur la genèse de cette histoire-là. C'est une cause à l'origine d'agression sexuelle. L'accusé est trouvé coupable. Le jugement est renversé en appel parce que le juge aurait, de première instance, aurait fait une généralisation en disant les mots « une femme ». Il disait « une femme le sait ». Lorsqu'elle subit une pénétration péno-vaginale. Pardon à nos auditeurs qui sont en train de dîner ou qui n'aiment pas qu'on aborde ce genre de sujet, mais voilà, moi, j'ai jamais tant parlé de ça que depuis cette affaire, d'ailleurs. Et donc, le juge dit ça, et parce qu'il dit ça, en appel, on fait valoir que c'est une généralisation abusive. Ça pourrait vouloir dire que toutes les femmes ont toujours raison sur cette question. Je pense que c'est ce qu'on voulait dire. Et puis ensuite, à la Cour suprême, on renverse de nouveau la décision en disant « Non, le juge avait raison sur le fond, même si effectivement cet emploi de terme était regrettable. » Mais dans le même article, le même paragraphe, la juge réfère à la personne ayant un vagin. Alors là, tout le monde a interprété ça de toutes sortes de façons. Est-ce que la Cour suprême est en train de nous dire qu'on ne peut plus dire le mot « femme » ? Et l'Assemblée nationale se précipite et vote une motion donc pour blâmer ce choix de mots et rappeler que les femmes ne doivent pas être invisibilisées par la terminologie. Enfin, je n'ai pas le libellé sous les yeux, mais c'est à peu près ce que ça voulait dire. Guillaume Rousseau, comment êtes-vous? Êtes-vous sorti étourdi comme nous tous de cette affaire-là ou avez-vous une idée claire là-dessus?
Ben, j'ai une idée assez claire. Premier élément de l'analyse, moi j'apprécie cet élément de la culture politique québécoise qui fait que l'Assemblée nationale du Québec, quand elle n'est pas d'accord avec la Cour suprême, elle le dit, elle adopte une motion. Ça n'existe pas dans les autres provinces, là. Donc le côté vraiment où le Québec est conscient qu'il y a des tensions entre le judiciaire, avec les juges nommés par le fédéral, pour revenir un peu à notre thème de plus tôt au début de l'émission, et ouais, le pouvoir exécutif, législatif surtout. Donc cette tension-là, puis le Québec se défend, puis répond à la Cour suprême, est consciente, l'Assemblée nationale, que c'est politique un jugement de la Cour suprême. Donc ça, j'apprécie beaucoup ce côté-là de la culture politique québécoise.
Vous n'avez pas d'objection de principe à ça?
Non, au contraire, je trouve ça absolument sain en démocratie. Autant la motion de Michaud, j'aime moins ça. Là, je pense pas que l'Assemblée nationale devrait être l'arbitre des bonnes mœurs puis commencer à dénoncer des propos tenus en privé ou en public. Là, ça m'apparaît vraiment un dérapage. Mais autant, c'est une grande institution politique, la Cour suprême. L'Assemblée nationale en est une autre. Et c'est correct pour l'Assemblée nationale d'envoyer un message à la Cour suprême et de susciter le débat. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun problème. Ensuite, moi, je pense qu'il y a eu exagération des deux côtés. C'est-à-dire que quand on vient dire, parce que la Cour suprême utilise l'expression « personne ayant un vagin », forcément, ça invisibilise les femmes complètement et tout. Donc, il y a eu peut-être un petit peu d'exagération au début de la part de ceux qui contestaient en même temps.
Ben, je pense que le journal disait carrément que la Cour recommandait qu'on n'utilise plus ce vocabulaire, où elle allait presque là. Le journal allait presque là. Ça, c'était sans doute une mauvaise façon de rendre...
Effectivement. Comme je vous dis, il y a eu un petit peu d'exagération au côté, au début, quand on disait que c'est comme si la Cour suprême voulait complètement invisibiliser les femmes, qu'on voulait plus utiliser le mot femme, c'était exagéré. Puis là, l'argument de ceux qui ont remarqué ça, c'est-à-dire, ben, le mot femme est utilisé beaucoup dans le jugement ailleurs. Donc, vous voyez bien que la Cour suprême ne veut pas qu'on cesse d'utiliser ce mot-là. Bon, ensuite, c'est plus compliqué parce que c'est d'autres juges qui utilisent ce mot-là. C'est la juge elle-même qui cite d'autres gens
des
qui
citations.
Utilisent ce mot-là. Bon, c'est plus compliqué, mais effectivement, elle l'utilise ailleurs. Donc, c'est une nuance qui est quand même importante, mais de toute façon, au-delà du côté quantitatif, donc le nombre de fois où elle utilise le mot femme versus le nombre de fois où est utilisée l'expression personne ayant un vagin, au-delà de l'aspect quantitatif, moi, ce qui est important, c'est l'aspect qualitatif. Donc, le fait que ça vienne de la Cour suprême, que jamais aucun tribunal au Canada n'avait utilisé cette expression, et là, la Cour suprême le fait, c'est pas banal. Donc, bon, autant les premières personnes, National Post, puis même des collègues à Cube, au Journal de Montréal, ont frappé très fort au début, l'ont peut-être dramatisé un peu, puis c'est correct. Ça fait partie du jeu médiatique. Autant ensuite, d'autres qui ont critiqué ont banalisé à l'excès cette expression-là.
Il y en a qui continuent de dire, Guillaume Rousseau, ouais, que l'expression a été employée non pas pour, si vous voulez, marquer une forme d'adhésion à la théorie du genre et au fait que toutes les femmes désormais ne sont pas des femmes classiques au sens traditionnel du terme, mais physiquement, peut y avoir des femmes qui n'ont pas de vagin. Bon, bref. Et eux disent, non, c'est pas ce qu'on a voulu dire. En fait, on voulait dire, on aurait pu dire personne avec un genou ou personne avec des cheveux. Là. Est-ce que là, on va pas trop loin dans l'autre sens, en fait?
Oui, effectivement, c'est ça. Autant au départ, il y a pu avoir un petit peu d'exagération, autant ensuite, il y en a eu beaucoup de l'autre côté. Là. Effectivement, j'ai carrément vu ça. Moi, quelqu'un qui disait, non, mais si ça avait été une agression au visage, le juge aurait dit personne avec un visage, alors qu'il y a des milliers de jugements sur des agressions au visage, puis jamais l'expression personne ayant un visage est utilisé. Donc, des arguments étaient complètement ridicules. Puis surtout que dans le camp de ceux qui défendaient la Cour suprême puis l'usage de son expression, il y en a plusieurs qui disaient non, c'est important parce qu'il ne faut pas exclure toutes les sortes de femmes. Donc, il existe, c'est-à-dire qu'il existe des personnes qui ont un vagin sans être des femmes. Bon, il y en a qui ont tenu ce discours-là, là, des gens haut placés, des juristes et tout, des professeurs de droit et tout. Donc dans le camp, il y avait comme deux défenses de la Cour suprême qui se contredisaient. Certains disaient non, il n'y a rien à voir, corps, ça rien à voir avec les théories sur les transgenres, puis ça avait été une face, on aurait dit personne ayant une face, puis d'autres disaient non, mais là, faut pas être transphobe, puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas des femmes, qui ont des vagins, donc tout de suite, on voit qu'il y avait une contradiction, donc ça tenait pas la route. La réalité, c'est que ça l'invisibilise pas les femmes, parce que le mot femme est utilisé ailleurs, faut pas dramatiser, mais cette expression-là est utilisée, elle est liée à une idéologie, la théorie du genre et tout, et c'est correct d'en débattre, puis c'est correct que l'Assemblée nationale fasse part de son désaccord. Donc, évitons la dramatisation, mais évitons aussi la banalisation.
Frédéric Lapointe, Guillaume Rousseau est en train de nous dire que non, ce jugement ne portait pas sur l'emploi du mot femme et ne recommandait encore moins qu'on cesse de l'utiliser. Mais en même temps, oui, on peut considérer que le vocabulaire d'une certaine idéologie a fait son entrée dans les décisions de la Cour suprême à travers ce jugement-là, dans une phrase à l'article 109. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait nuancé des choses?
Oui, cela dit, je reconnais, comme Guillaume l'a fait, l'opportunité de l'Assemblée nationale a l'occasion de critiquer la Cour suprême.
Ah ben oui, parlons-en de la motion.
Dans le cas qui nous occupe, j'oserais dire que c'est peut-être pas le désaccord le plus important qui existe entre l'institution qu'est l'Assemblée nationale, la province du Québec, la nation du Québec et la Cour suprême. Il y en a quelques-uns. Alors peut-être qu'il serait dans notre intérêt national que l'Assemblée nationale ne se couvre pas de ridicule en proférant encore une fois des dénonciations sans avoir lu le texte, hein, et en se fondant sur du mauvais journalisme du National Post. Je pense qu'on mérite mieux. Je pense que notre intérêt serait mieux servi par autre chose. Et si l'Assemblée nationale a beaucoup de pouvoir, on le disait autrefois, sauf peut-être celui de changer un homme en femme, bien sûr,
c'est Ottawa qui disait ça, d'ailleurs. Hein?
C'était Ottawa, M. Trudeau. Bon, ouais. Voilà, c'était Trudeau qui disait ça. Mais peut-être que la question des genres s'invite et que peut-être que nos parlements, maintenant, ont ce pouvoir de déterminer ce qui correspond à un homme et à une femme,
de se prononcer là-dessus quand ça arrive.
Mais encore une fois, si on a à faire ce débat-là, faisons-le intelligemment, s'il vous plaît.
Alors vous, les justifications de parce que Martine Biron, qui est l'instigatrice, qui est pas n'importe qui d'ailleurs, qui est proche du dossier, hein, peut-on dire, elle dit non, mais moi je voulais condamner seulement le choix de mots et je n'ai jamais dit que la fausse nouvelle, en l'occurrence du National Post, là, c'est moi qui complète, était valide.
Elle s'est défendue comme elle le peut.
Pardon?
C'était probablement le meilleur argument qu'elle pouvait mobiliser. Oui. En disant, les mots sont apparus, je dénonce les mots, et puis le reste, je ne suis pas responsable.
Est-ce que c'est pas ça qu'ils ont fait? Non, vous trouvez qu'ils sont allés plus loin que ça?
Ils sont allés plus loin que ça. Pour vrai, il y a là une question importante, la question des genres. Il y a des questions de santé publique qui commencent à se poser. Il y a des questions de liberté d'expression. Est-ce qu'on peut débattre de ces questions-là sereinement dans des universités, dans les médias, dans certains médias ailleurs? Et donc, je pense que si l'Assemblée nationale a un rôle à jouer, c'est de contribuer au débat, c'est d'être un arbitre, c'est de protéger la liberté, la santé de chacun, mais pas de se couvrir de ridicule comme ils l'ont fait.
Guillaume Rousseau, en terminant, il nous reste une minute. Trouvez-vous, vous aussi, que néanmoins, même si vous aimez que l'Assemblée nationale se permette de se prononcer sur ce genre de choses, ici, les députés auraient erré?
Non, moi, je parlerais pas de... Je pense pas que l'Assemblée s'est couverte de ridicule. On peut penser que tel ou tel mot allait un petit peu trop loin, qu'on l'aurait écrit autrement la motion. Là, on peut aller sur des détails. Mais je pense que le point, c'est que la Cour suprême a utilisé cette expression-là, personne ayant un vagin plutôt que femme, et qu'il y a une idéologie qui fait la promotion de l'usage de ce type d'expression, et cette idéologie-là, auquel semble adhérer jusqu'à un certain degré la Cour suprême, c'est une idéologie qui, effectivement, peut amener à une certaine invisibilisation des femmes. Donc, ensuite, ça a été grossi, mais de la même façon que je vous disais, certains avaient grossi, puis ça fait partie du jeu médiatique, mais moi, je trouve que certains ont grossi, puis ça fait partie du jeu politique aussi. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, puis c'est un vrai débat, et ça valait la peine de faire cette motion-là.
On pourrait dire au final qu'on a l'impression d'un débat qui voulait vraiment se faire, hein, qu'on avait envie de faire et qu'on a trouvé une façon de le faire et que ça va recommencer bientôt. Je ne vais pas vous décevoir, Frédéric Lapointe.
Ouais, c'est un cas de gâchette sensible.
Ah oui, bon, peut-être. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute pour cette édition de Société. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, d'avoir été...
Merci à vous.
D'avoir commenté avec nous ce midi. Merci à vous, Frédéric Lapointe. Et Nick Payne qui vous dit à samedi prochain, même heure, même poste.